Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une montpelliéraine pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Le monde des associations est vaste, multiple, divers par la taille, les moyens, les activités. Nous le savons bien ici à Divergence, puisque notre radio s'appuie sur l'association Croc-Oreille. En deux mots, séparés par une apostrophe, Croc-Oreille. Les associations peuvent être fragiles ou fragilisées, comme on l'a vu, pas seulement pendant le Covid, mais aussi après la pandémie, quand l'engagement associatif a pris un coup dans l'aile. Il est donc très utile, voire décisif, de donner un coup de main bien ajusté à une association afin qu'elle trouve les voies de sa pérennité et de son développement. Organiser ce type de mission d'appui temporaire, c'est la raison d'être d'une association. Son nom la décrit bien, elle s'appelle Passerelles et compétences. Passerelles au pluriel, on voit l'image, et compétences au pluriel également. Pour nous en parler, j'ai invité deux des responsables de l'antenne de Montpellier, Marie Bézinger et Simine Nandar, toutes deux bénévoles. Marie Bézinger, vous êtes la responsable de cette antenne. Votre parcours vous a donné des compétences dans le management d'entreprise. Simine Nandar, vous avez travaillé dans l'information et la communication, en collectivité locale et en entreprise. Vous assurez aujourd'hui des prestations de conseil en relations presse et en communication. Et donc, Simine, qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager à Passerelles et compétences? Quel a été le déclic?
Le déclic, il a été double. D'une part, un deuxième confinement du Covid, qui nous a tenus éloignés, effectivement, de nos lieux de travail. Et le deuxième, j'allais dire déclic, ça a été en fait une relation qui est elle-même passerelle au sein de Passerelles et compétences et qui m'en avait parlé. Donc, j'ai franchi le pas à ce moment-là.
Très bien. On verra si ça a été intéressant un peu plus tard. Et vous-même, alors, quel a été le ressort de votre engagement?
Un petit peu similaire, en fait. Ça a été, au moment du Covid aussi, une baisse d'activité professionnelle. Et puis, le fait que une relation à moi m'a fait connaître Passerelles et compétences, qui recherchait quelqu'un pour justement animer l'équipe à Montpellier. Et donc, voilà, j'ai découvert que je pouvais m'engager là. Voilà.
Très bien. Donc, avant de nous faire découvrir Passerelles et compétences, racontez-nous votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Donc, Marie Bézinger, quels sont les lieux que vous appréciez particulièrement à Montpellier et pourquoi?
Les lieux que j'apprécie sont en fait très nombreux, puisque moi je dirais que c'est quasiment tout l'Écusson, tout l'ancien Montpellier, où j'adore me promener.
Vous êtes une Montpelliéraine de longue date?
Je suis Montpelliéraine depuis une petite dizaine d'années.
Ah oui, d'accord, vous avez vu la ville en plus évoluer.
Oui, d'autant que j'y avais fait mes études il y a donc assez longtemps
années. Maintenant,
voilà, et donc j'ai vu effectivement tous les changements entre quand j'étais étudiante et maintenant. Mais j'aime beaucoup l'Écusson. Je trouve que c'est magnifique et il y a une atmosphère que j'aime beaucoup.
Simine, la même question.
Moi, effectivement, j'ai des coups de cœur qui sont liés à des lieux, mais aux personnes qui y ont habité. Donc, la première à laquelle je pense, c'est ma grand-mère, qui habitait Montpellier et qui habitait rue Ernest Michel, notamment dans une petite impasse qui s'appelle, je crois, l'impasse Ernest Michel. J'y retourne de temps en temps. Et puis, un deuxième lieu que je trouve charmant et que tous les guides montpelliérains relèvent, c'est bien évidemment la place de la Canourgue.
Très bien, oui. Et alors, donc, quand vous recevez des amis ou des parents de passage, qu'est-ce que vous leur dites de Montpellier et notamment en quoi, selon vous, notre ville se caractérise par rapport à d'autres grandes villes françaises?
Je dirais que c'est sa vie, c'est sa vitalité. C'est-à-dire, très souvent, on me dit, mais quand on sort de spectacle, quand on rentre chez soi un peu tard, la ville est toujours allumée, la ville est toujours animée. parfois un peu trop, selon certains riverains. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup, une grande part de jeunesse et d'activités culturelles et sportives. Donc je pense que c'est cette jeunesse-là qui séduit toujours les visiteurs qui passent par Montpellier.
Alors Marie aussi, hein, comment vous faites bénévolement, le guide touristique de Montpellier.
Oh ben, ça va ressembler un peu à ce que disait Simine, c'est-à-dire c'est le dynamisme, la jeunesse. C'est aussi une ville cosmopolite. Il y a un brassage culturel, un brassage des gens qui est très, très riche.
Très bien. Alors nous voilà, vous voilà dans le bain. On va donc revenir à passerelles et compétences. Et peut-être d'abord, Marie Bézinger, là, quelques mots sur la création de cette association. Comment a-t-elle été lancée? Selon quels grands principes?
Alors, au niveau national, l'association a été créée donc, en région parisienne en 2002, je crois. Oui, 2002. Donc, en fait, par une personne qui s'appelle Philippe Bertrand et qui était chasseur de tête, qui travaillait dans un cabinet de recrutement. Et l'histoire a commencé comme ça. Il a été sollicité par quelqu'un qu'il connaissait pour rechercher un dirigeant d'association. Et puis, donc, il s'est mis en recherche, comme ça, d'un dirigeant d'association. Et puis, finalement, il s'est rendu compte, ou ça lui a donné envie de faire ça gracieusement pour cette association et de généraliser le concept. Donc, c'est comme ça qu'est né ce concept d'aider les associations.
Et avec un développement progressif.
Oui.
22 antennes, sauf erreur.
Voilà,
donc
c'est
celle
ça.
De Montpellier, dont on va parler dans un instant. Alors, précisément, cette antenne Montpellier a été créée en 2017. Je ne dis que qu'elle couvre l'Hérault, l'Aude et le Gard, et bien sûr Montpellier et cette, les zones que notre radio couvre. On peut résumer ces actions avec deux expressions que j'ai retenues. Son positionnement, le bénévolat de compétences, et le secteur auquel vous vous adressez, les associations solidaires. Alors, Simine Namdar, bénévolat de compétences, qu'est-ce que ça signifie? Comment ça se traduit plus précisément dans votre activité?
Alors, un bénévolat de compétences, c'est un bénévole qui met effectivement ses compétences, son expertise professionnelle au service d'une association. Donc, c'est du coup extrêmement varié, c'est-à-dire que ça peut aller de l'informatique au juridique, en passant par de la gestion, en passant par la conduite de projet, du graphisme ou de la communication internet. Voilà, donc le principe et la vocation effectivement de passerelle et compétences, c'est de permettre à des personnes qui sont ou en activité, ou qui ne le sont plus, ou qui vont le devenir, parce qu'on a aussi des étudiants.
C'est ça. Il n'y a pas que des retraités, comme dans d'autres associations.
Non.
Au contraire. C'est plus diversifié.
Au contraire. Hein, on lutte contre un préjugé. La majorité de nos bénévoles sont des personnes qui sont en activité. Et on expliquera d'ailleurs pourquoi. Parce qu'effectivement, ce sont des bénévoles qui vont aller aider l'association de façon ponctuelle, sur un temps donné, sur mesure.
Très bien. Alors, question complémentaire, Marie Bézinger, association solidaire dans le vaste univers des associations que j'ai rapidement brossées tout à l'heure, c'est le choix, la priorité que vous avez retenue?
Absolument, oui. Donc, nous aidons, notre slogan, c'est un peu « nous aidons ceux qui aident les autres ». Donc,
ouais.
On intervient auprès des associations solidaires. Alors, c'est quoi une association solidaire? C'est un peu le sens commun, hein. Donc toutes les associations qui vont intervenir dans le domaine de la santé, du handicap, de l'action sociale, de l'emploi, etc., etc. Donc en fait, ce qui n'est pas a priori solidaire, imaginons par exemple un club sportif,
oui,
on va le soutenir néanmoins si dans son projet il y a une action par exemple destinée à des populations défavorisées ou des personnes en handicap ou d'intégration. Voilà, donc c'est vraiment solidaire au sens commun qu'on peut avoir.
Ça fait déjà un grand nombre d'associations.
Exactement.
En tout cas sur le papier.
Absolument.
Alors, pour que les auditeurs comprennent bien votre potentiel, vos capacités, donc ces bénévoles, hein, je vous invite à répondre l'une et l'autre, dont vous organisez l'émission, donc qui sont-ils? Comment sont-ils recrutés?
Alors, ils s'adressent à nous ou c'est nous qui allons les chercher un petit peu par relation, par cooptation, hein, comme d'ailleurs ça a été mon cas. Et il n'y a pas de profil idéal. Il y a surtout des gens de bonne volonté et qui ont un petit peu de temps à dédier à ces associations solidaires.
On avait dit un petit peu de temps.
Un petit
on
peu
y reviendra,
de temps.
Mais du temps effectif.
Quoi. Ah, tout à fait, du temps effectif.
Donc il y a un engagement. Quoi.
Tout à fait. Hein, quand je dis c'est un engagement qui s'adosse d'ailleurs à l'élaboration d'une mission et d'une feuille de route. Mais pour répondre à votre question, le bénévole effectivement qu'on recherche, il a, c'est un petit peu la spécificité de notre association, il a une compétence effectivement qui est une compétence dans, non pas l'opérationnel de porter des fois des caisses ou d'aller effectivement ou d'accompagner une personne, je ne sais pas, à un rendez-vous médical. Il a vraiment vocation d'apporter une prestation plutôt intellectuelle, hein, avec tout le respect que je dois au reste, une prestation intellectuelle qui va venir en plus de ce que l'association n'a pas ou n'a pas le temps effectivement de développer. Donc
ça concerne la gestion. L'organisation.
Le financier, ça peut être effectivement, les associations se tournent vers nous pour finaliser un résultat comptable, pour remplir une demande de subvention, pour élaborer, voire mettre à jour ses statuts. Ça, c'est tout le côté effectivement juridique, administratif. Ça peut être aussi pour mettre à jour un site internet, une plateforme de référencement. Ça peut être du graphisme, comme ça peut être, dernièrement, nous l'avons en mission, d'aller les aider à chercher un local pour leur association. Donc, c'est vraiment très divers, mais effectivement, le bénévole vient à nous et on le rencontre, on l'accueille. On prend le temps de se connaître et on accompagne le bénévole pendant la mission.
Oui, ça, il n'est pas à lui vrai.
Non, il y a toujours. Voilà, il y a toujours en back-office.
Il y a un suivi qui est de l'ordre, j'imagine, de l'aide ou de l'accompagnement et un peu du contrôle, en quelque sorte. Quand même, de vous assurer que ça.
Non, même. D'être là voilà. si besoin pour aider ou faciliter.
Bon, il est un peu perdu, il ou elle est un peu perdu. Voilà. Ça ne colle pas tout à fait avec ses interlocuteurs dans l'association.
Exactement.
Vous mettez de lui dans les rouages le
tout
moment
à fait.
Venu.
Exactement.
D'accord. Et à la fin de la mission, on fait effectivement un point avec lui ou elle et l'association pour effectivement faire un bilan de cette mission.
Alors, on parlera de l'outil de diagnostic là, que vous avez mis au point. Mais, donc, il y a un besoin qui est identifié, qui est cerné. Face à ce besoin de l'association X, il y a le besoin d'un, ou j'imagine éventuellement de plusieurs, selon besoin, puisque c'est bien d'une technicité, une expertise, disait Simine, qui est requise. Et une fois cette espèce de base de cette collaboration établie, comment ça se passe? Il y a quoi, un petit programme dont la durée est déterminée? Quel est le cadre dans lequel cette mission s'exerce?
Oui, donc une fois que effectivement le bénévole qui va assurer la mission est identifié, donc on va le mettre en relation avec l'association. Et ensemble, ils vont construire ce que Simine a évoqué tout à l'heure, une feuille de route. C'est-à-dire que l'idée, c'est de cadrer la mission, justement, d'identifier en quoi elle va consister. Grosso modo, les grandes étapes, la notion de temps aussi, de délai, de disponibilité du bénévole. Est-ce qu'il va pouvoir y consacrer un peu de temps toutes les semaines ou un peu plus de temps, mais que tous les 15 jours enfin,
ouais, voilà. Qui est pas mal donne. Ouais, et que voilà. C'est pas un contrat juridique du terme, voilà. Mais c'est une espèce d'accord.
Et sur les livrables aussi. Voilà. Donc justement, sur la mission, qu'est-ce qu'on attend de cette mission? De manière à cadrer les choses et effectivement...
Donc un document écrit.
Voilà, un document écrit qu'on leur demande de valider de part et d'autre. Et on...
Alors, donc, précisément, pour vous donner les moyens de cerner des besoins et de le faire d'une manière fine, qui donc permet de s'assurer qu'une mission confirmée arrive à bonne fin... Vous avez donc mis au point un outil gratuit pour diagnostiquer la situation d'une association et identifier ses besoins. Alors comment vous avez conçu cet outil? Comment le mettez-vous en œuvre?
Alors cet outil, on l'a conçu en fait, il s'adresse à des associations petites, moyennes associations, donc il ne s'adresse pas à des grosses structures qui sont déjà très bien organisées. ou bien des associations toutes jeunes. Et on l'a conçu en fait pour visiter, pour parcourir l'organisation et le fonctionnement de l'association selon différentes orientations. Voilà. Donc on l'appelle le 360 de votre association.
Faire le tour.
360 voilà. degrés. Et donc on va aller visiter par exemple l'organisation, la gouvernance. On va aller regarder la communication, la notoriété, on va aller regarder le fonctionnement opérationnel, la gestion financière. Voilà, on va aller regarder comme ça différentes dimensions de manière à identifier avec l'association. Hein, ça
oui,
se fait
entendu.
Vraiment au travers d'un dialogue et d'échanges. Ça leur donne l'occasion vraiment de se poser.
Oui, de faire retour sur leur manière de faire.
Voilà, de se poser, de réfléchir à ce qu'ils font, à comment ils le font. L'idée étant d'identifier où l'association en est par rapport à chacune de ces thématiques et d'identifier les priorités qu'elle a, ce sur quoi il faut qu'elle travaille pour assurer son développement ou sa pérennité.
Donc l'avantage, c'est que l'association, on s'arrête, on regarde ce qui se passe. C'est une espèce de luxe qu'on ne peut pas toujours se
Exactement.
Permettre. Et ça donne une base ensuite d'une mission éventuelle.
Voilà.
Alors, ce n'est pas un audit au sens le plus technique du terme, c'est quand même un état des lieux. Je l'appellerai comme ça, qui vous permet de
c'est
constituer la base, le socle d'une mission éventuelle.
Absolument. Donc c'est en toute humilité hein, qu'on mène ça et ça peut déboucher sur des missions ou pas.
Alors cette phase-là résulte d'une sollicitation qui vient de telle ou telle association ou elle peut au contraire advenir, je dirais, donc vous connaissez comme ça une association et vous leur proposez cet outil d'accompagnement-là.
Alors, on ne va pas le proposer comme ça de but en blanc, mais en revanche, si on rencontre une association où on sent que ça pourrait être pertinent et utile pour l'association de le faire, oui, on va le faire. C'est-à-dire que l'association peut nous solliciter parce qu'elle a identifié un besoin, elle nous sollicite pour ce besoin-là. Et puis, en discutant pour justement nous bien comprendre ce besoin, on va se rendre compte que peut-être qu'il faut aller regarder d'autres
D'accord.
choses et
D'accord.
donc lui proposer de faire cet exercice.
Il faut qu'elle joue le jeu, bien entendu, sinon ça n'a pas de sens.
Oui.
Alors, je reviens quand même aux bénévoles pour ne pas perdre ça en route. Est-ce que vous avez besoin de renforcer votre effectif de bénévoles à ce jour? Et comment donc les auditeurs éventuellement intéressés, j'espère qu'il y en aura, peuvent vous contacter, qui répond peut-être 6000
On a toujours besoin. On a toujours besoin de bénévoles.
Vous en avez combien actuellement, grosso modo?
Alors, on a...
Rattaché à l'antenne.
Alors, à l'antenne, il y a une centaine de bénévoles.
Ah, d'accord, ça fait quand même un beau...
Une centaine de bénévoles. La grande richesse qu'offre cette association Passerelle et Compétences, c'est que non seulement, effectivement, nous avons 100 bénévoles ici sur Montpellier, sa région, mais nous pouvons bénéficier à distance des 5000 bénévoles de Passerelle et Compétences.
Voilà, donc s'il y a donc une expertise particulière,
voilà.
une technique, pas quoi le...
Si la mission s'y prête, voilà. si la mission peut être faite à distance, et il y a beaucoup de missions qui peuvent être faites à distance, ça ouvre plus de possibilités de trouver
Bien
un bénévole.
Sûr.
On donnera toujours la préférence à un bénévole
Bien
qui
sûr.
Est à proximité, mais voilà, le cas échéant, on pourra
Bien
aller
ça donne, bon,
puiser ailleurs.
Une capacité à intervenir
à
distance.
Voilà.
Alors, je crois qu'il est temps maintenant de donner des exemples de missions, peut-être Marine, que vous avez conduite récemment, qui permettent de montrer voilà, comment vous opérez, qu'est-ce qui se passe, et bien sûr, quels résultats ça produit. Et puis, Simine enchaînera avec d'autres exemples, si elle veut bien.
Oui, j'ai par exemple une mission sur laquelle on a été sollicité pour concevoir le site Internet d'une association qui s'adresse à un public de sourds et malentendants.
Avec donc cette comme caractéristique importante.
Voilà. Et donc, effectivement, c'est une mission qui est aujourd'hui terminée, qui s'est écoulée là, sur l'année 2024, où on a pu mettre en relation l'association avec un bénévole qui a retravaillé complètement le site.
D'accord, donc avec une espèce d'élaboration conjointe d'un cahier des charges.
Voilà, c'est ça, oui.
Et donc, la mise en œuvre qui
voilà.
a suivi. Donc le site est opérationnel, on va l'être,
ouais,
d'accord.
Le site est opérationnel et donc c'est passé par le cadrage que j'ai évoqué tout à l'heure, la fameuse feuille de route qui identifiait les attentes de l'asso, les possibilités techniques et les choix.
Alors, autre exemple, là, Simine.
Nous avons accompagné l'association et sa délégation ici, Montpellier-Rennes, face à l'inceste, qui souhaitait effectivement organiser une conférence à l'attention du personnel soignant pour en invitant des spécialistes pour effectivement les informer, les initier à repérer effectivement les signaux d'alerte sur un enfant.
Ah oui, c'était quand même un enjeu là, extrêmement délicat, à la fois important et délicat.
Ouais. Voilà, donc ça s'adressait autant du personnel hospitalier que la gendarmerie ou la police. Donc ça, on a pu l'accompagner. Des choses aussi diverses que, par exemple, le comité de l'Hérault Nicaragua, hein, comité Nicaragua-Occitanie, qui là aussi souhaitait organiser une exposition photo des prisonniers et des disparus nicaraguayens là-bas. Et donc, on a effectivement mis les mains dans le cambouis, mais pas que, hein, on les accompagnait aussi en communication pour qu'ils puissent exposer dans les locaux d'ailleurs de la ville de Montpellier, dans la mairie de Montpellier. De la même façon, mais je renvoie la balle à Marie, je sais que nous aidons aussi par exemple le carrousel.
Oui, donc après effectivement on démarre là une mission pour le carrousel qui est donc une association de quartier, il s'appelle même la maison par tous, donc qui met en place tout un ensemble de projets montpelliérains. Donc là, c'est une mission, en fait, pour les aider à mettre à disposition leurs espaces de salles de réunion qu'ils ont. Donc, aller trouver des clients potentiels, associations, mais aussi beaucoup entreprises, justement, pour utiliser ces locaux. Après, on a des missions aussi qui s'étalent beaucoup plus dans la durée. Je pense à... Là, on démarre une mission avec une association qui intervient dans le domaine de l'insertion, de l'emploi, où il s'agit de communiquer, de retravailler justement la stratégie de communication, en particulier vers les entreprises qui pourraient être de potentiels employeurs pour leurs bénéficiaires. Donc ça, c'est une mission qui va s'étaler quand même sur voilà. quelques temps.
Donc il y a le lien de l'entreprise, bon, l'aspect oui. RH, bien
voilà,
sûr,
c'est ça, voilà.
associé
ouais.
à ça. Oui.
Puis cibler quelles entreprises pour leur dire quoi, pour voilà comment les...
Pour être convaincante et
voilà.
efficace.
C'est ça, exactement.
D'accord,
ouais.
Donc on verra dans quelques temps là, comment ça s'est passé. Alors il est temps que vous donniez... les coordonnées auxquelles on peut vous joindre, qu'il s'agisse de bénévoles, de candidats bénévoles, de potentiels bénévoles ou d'associations dans le champ très large de la solidarité qui seraient intéressées par vos actions. Donnez-nous l'adresse mail, la Marie.
Alors, l'adresse mail, c'est montpellier @ passerelle zcompétences avec un s.org.
Très bien.
Et après, on nous trouve très facilement par le site internet Passerelle et compétences, voilà. où on va cliquer sur...
Voilà, parce qu'il y a un volet à Montpellier voilà. hein, du site national. Je vous la rappellerai, cette adresse, à la fin de notre rencontre. Alors, une question plus pour revenir sur... Je vous interrogeais au début de l'émission sur les motifs, les motivations de votre engagement. Et après quelques mois, 6000 et quelques années, Marie, à commencer par Marie... Qu'est-ce que vous a apporté cet engagement, le temps que vous y consacrez, pour vous, là, pour votre à titre personnel ou éventuellement professionnel, quel est l'acquis?
Ce que ça m'apporte, c'est déjà, c'est pratiquement un émerveillement tous les jours rapport à toutes ces associations qui œuvrent dans le domaine de la solidarité.
Il y a le mot humain, je vous coupe, qui
voilà.
est un peu un marqueur, comme on dit. Ouais. Vous l'avez pas dit, me semble-t-il, au bout de l'émission. Il y a quand même cette idée de l'humain, de la relation telle qu'elle peut s'installer.
C'est l'humain. Donc la relation avec les bénévoles et puis avec les associations, bien sûr. Donc c'est vraiment c'est le sentiment de rencontre, de diversité de causes, de diversité de problématiques. Et l'impression, enfin le sentiment, effectivement, de contribuer à quelque chose
utile.
dans l'humain, d'être utile. Ouais. Et alors, avec le contexte géopolitique qu'on a actuellement, ouais. ça fait tellement de bien cette humanité que, voilà, donc c'est formidable.
Très bien. Alors, Simine, bon, ça va être assez voisin, j'imagine, avec vos propres mots, comment
voilà.
ça se traduit?
Je complète, effectivement, derrière solidarité, humanité. Je rajouterai d'une autre façon que Marie, curiosité, parce que ce qui nous motive, effectivement, c'est de découvrir ou de redécouvrir, effectivement, les vocations des associations, ce sur quoi elles travaillent, ce qu'elles nous amènent nous-mêmes à nous interroger. C'est de la curiosité des gens qu'on rencontre, et Dieu sait si parfois ils sont très curieux. C'est la richesse humaine. Et moi, je m'attache aussi à la notion de transmission. Parce que nous sommes, nous, en tant que bénévoles et bénévoles dits compétents, avec beaucoup d'humilité.
Expérimentés,
voilà. On transmet effectivement un savoir-faire. Je pense qu'il est important, peut-être qu'on va l'évoquer, mais nous transmettons avec effectivement cette notion de générosité et surtout avec l'ambition de donner cette compétence pour qu'elle devienne celle de l'association ou celle du bénévole ou des bénévoles qui de l'association qui la reçoit. C'est-à-dire que l'autonomie est pour nous quelque chose de précieux. Parce que parfois nous faisons à la place d'eux, ou nous montrons, mais nous cherchons surtout à ce que cette solidarité les conduise eux-mêmes à être autonomes et indépendants.
Alors Marie, dans vos actions, jusqu'où allez-vous ? Quelles sont les limites de vos actions, dans la mesure où elles se développeraient dans un domaine qui n'est pas le vôtre ? Du coup, ça s'arrête, bon, parce que c'est du bénévolat. On dirait un mot de ce que ça
coûte.
Oui,
nous sommes attentifs déjà, par exemple, au fait de ne pas prendre la place de professionnels, notamment de tous les indépendants qui peuvent intervenir sur le marché.
Donc,
de ne pas faire de confusion de genre et d'éviter que les bénévoles fassent aussi des confusions. Donc, on est bien sur du bénévolat. On est, comme Simine l'a expliqué, plus dans de la transmission, plus que dans le faire à la place d'eux, même si parfois il y a des choses comme le site internet, je disais, il faut faire le site. Hein.
De l'accompagnement.
Voilà, c'est ça, de l'accompagnement. Après, c'est vrai qu'on ne se positionne pas du tout comme un prestataire. On n'est pas un prestataire. On accompagne, on aide. Le bénévole, pendant qu'il intervient pour sa mission dans l'association, devient d'ailleurs formellement ou administrativement bénévole de l'association.
Pour avoir un statut, même s'il
voilà,
est
c'est
léger.
Ça. Et donc, la feuille de route de la mission est vraiment cadrée entre le bénévole et l'association. Nous, on va accompagner. C'est-à-dire, on est là, comme on l'a dit tout à l'heure, au cas où il faudrait mettre un peu d'huile dans les rouages, où le bénévole n'est plus disponible et il faut qu'on trouve quelqu'un pour prendre le relais. À la fin, on fait un bilan aussi, donc de ce
bilan partagé,
mais,
j'imagine.
Voilà, mais on ne va pas nous intervenir pendant la mission pour dire mais vous aviez dit que vous faisiez ça et puis finalement vous le faites pas ou ça devait être fini en août et puis on est en octobre et non, on ne va pas intervenir là. La mission, c'est celle du bénévole et de l'association.
Donc une espèce de contrat.
Voilà, c'est ça.
Presque plus moral, je dirais, que juridique. Donc, on comprend à propos. Alors, j'ai dit, vous n'êtes pas des prestataires qui vendent leur savoir-faire. Toutefois, faire appel à vous a un coût, un petit coût. Comment se constitue-t-il, Marie, à deux volets, me semble-t-il, adhésion ?
Oui, tout à fait. Donc, en fait, chez Passerelle et Compétences, les adhérents, ceux qui cotisent, ce sont les associations. Donc, on demande aux associations une cotisation annuelle pour qu'on puisse se mettre en mouvement, justement, pour travailler avec eux sur les missions dont ils ont besoin. Donc, la cotisation, elle est fonction du budget de l'association. On fonctionne, par tranche budgétaire. Voilà,
pour avoir un critère objectif. Donc,
pour donner un ordre de grandeur, la première tranche, ce sont les assos qui ont un budget de moins de 20 000 euros. Ce qui représente la moitié des associations pour lesquelles on travaille, en fait, on va être sur une cotisation de 50 euros.
Alors, deuxième volet, brièvement, parce qu'on arrive au bout, Marie, le coût, appelons-le comme ça, de la prestation qui n'en est pas une, mais de la mission, de l'accompagnement.
Il y a un petit coût. Quand la mission démarre, c'est-à-dire qu'on a trouvé le bénévole, que la mission est cadrée, qu'elle démarre véritablement, là, on va effectivement demander à l'association de participer aux frais de recherche de bénévoles. Et là, pour une petite association, comme je le mentionnais, c'est 40 euros.
D'accord, très bien. Voilà. Alors, sur ces on termine par des chiffres, mais on a plus parlé d'humains que de chiffres. Je crois que c'était ce que nous visions ensemble. Donc, je vous remercie, Marie Bézinger et Simone Namdar. Je rappelle l'adresse de Passerelle et Compétences, Montpellier, à passerelle et compétences collées et au pluriel.org. À bientôt sur l'antenne de Divergence pour découvrir bientôt une autre manière de raconter Montpellier.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.